Invité de la deuxième heure de ces matins du samedi, Cyril Dion, bonjour.
Bonjour.
Écrivain, réalisateur, militant écologiste, vous avez fondé avec Pierre Rabhi le mouvement Colibris, vous avez co-réalisé avec Mélanie Laurent le film Demain, César du meilleur documentaire en 2016 et près d'1 200 000 spectateurs. Avec la journaliste Laure Noilat, vous avez réalisé Après Demain, qui sera diffusé sur France 2 mardi prochain et sur lequel on reviendra après 8h30. Je voudrais commencer avec la tribune que vous avez signée mardi dans Libération, appelant les Gilets jaunes à rejoindre la marche pour le climat aujourd'hui. Il se trouve que depuis quelques jours, certains responsables politiques sont venus vous contredire. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a demandé aux organisateurs de reporter la marche d'aujourd'hui. La maire de Paris a fait la même chose. Et même Nicolas Hulot, qui a conseillé de ne pas y aller en craignant une confusion des messages. Alors, est-ce que vous irez et est-ce que vous maintenez votre appel à ce que les Gilets jaunes rejoignent la marche du climat? Cyril Dion.
Moi j'irai, je comprends qu'on soit inquiet et effectivement il faut faire attention parce que c'est une journée tendue. Il y a plus de 200 bénévoles d'Alternatiba qui vont assurer la sécurité du cortège. On a appelé à marcher pacifiquement, on a créé des liens avec un certain nombre de gilets jaunes pour que certains d'entre eux viennent parler à la fin de la marche. Et ce qu'on essaye de dire, c'est plusieurs choses. La première, c'est que aujourd'hui la cause des inégalités, ce qui fait que des gens n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et se retrouvent dans la rue à bloquer des ronds-points ou à manifester, et la cause de la destruction des écosystèmes, pour moi, est la même. C'est un système économique qui aujourd'hui cherche un maximum de croissance infinie dans un monde fini, qui cherche à faire du profit le plus rapidement possible en considérant que les gens et les écosystèmes sont des variables d'ajustement. Et que ça, c'est pas possible. Donc, le but de cette tribune et le but de cet appel, c'est de dire arrêtons d'opposer les choses, arrêtons d'opposer cette histoire de fin de mois et fin du monde, et regardons qu'au contraire, c'est peut-être une occasion historique de faire en sorte qu'un mouvement puisse remettre en question ce modèle économique qui est en train de nous emmener à la catastrophe. Ensuite, sur la sécurité d'aujourd'hui, moi j'encourage vraiment les Gilets jaunes à venir marcher pacifiquement avec nous, je continue à le faire. Je pense que c'est très important qu'aujourd'hui, on n'oublie pas de parler du climat, parce que c'est une mobilisation mondiale. C'est une mobilisation dans 17 pays, dans 160 villes. On vient de recevoir un rapport, il y a 2 ou 3 jours, qui dit que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté encore de 3% cette année, de 2% en France. Les scientifiques commencent à nous dire que si la température continue à monter comme ça, on va vers 3, 4, 5 degrés. Il faut quand même pas qu'on oublie qu'à 4 ou 5 degrés, c'est une partie assez importante de cette planète qui va devenir inhabitable. Donc c'est des centaines de millions de personnes qui vont mourir ou qui vont devoir migrer. Et que si on décidait aujourd'hui de ne pas organiser cette marche et de dire, on rentre chez nous, on va se planquer parce qu'on a peur comme tout le monde, quel visage est-ce qu'on donnerait? On donnerait un visage de singulièrement peu de détermination par rapport à cet enjeu.
Donc aller à cette marche, c'est afficher une détermination pour vous, Cyril Dion.
Ben oui, enfin, je veux dire, pour moi, c'est afficher.
Autrement dit, qu'est-ce que vous attendez d'une marche comme celle-ci?
Ce que j'attends, en fait, c'est qu'on crée cette union, en fait, qu'on passe ce message, qu'on montre que les personnes qui sont aujourd'hui préoccupées par la question climatique sont aussi préoccupées par la justice sociale. Et que, justement, cette opposition-là est une opposition factice et qu'elle n'a pas lieu d'être. Je pense que si aujourd'hui on ne se mobilise pas, on va dans le sens de cette fragmentation de la société qui est aujourd'hui, qui nous pend au nez. Et c'est aussi une façon pour nous d'essayer de donner du sens à ce mouvement et de ne pas le laisser à l'extrême droite, de ne pas le laisser aux populistes.
Vous dites, Cyril Dion, même cause, mêmes effets, c'est le système économique capitaliste qu'il faudrait renverser et d'une certaine façon, c'est pour cela que les deux causes sont liées. Mais est-ce que vous ne pensez pas à demain ou à après-demain, qui sont quand même les titres de vos deux œuvres cinématographiques et documentaires, quand des gens, il ne s'agit pas d'opposer fin du monde et fin de mois, mais quand des gens pensent encore aujourd'hui, et parfois aujourd'hui, la fin de la journée. C'est-à-dire que la peur des fins de mois difficiles passe quand même avant la peur de la fin du monde, parce que quand on n'a que 1 200 € par mois, eh ben, on a l'impression qu'on est puni et qu'on ne nous donne pas les moyens de faire autrement. Quand l'alternative, c'est faire réparer la machine à laver ou acheter de nouvelles chaussures aux enfants, risquer la coupure d'électricité ou payer un cadeau de Noël aux enfants, eh bien, c'est difficile de penser aux 4 degrés de réchauffement climatique. C'est peut-être une question de temporalité, en fait, la grande difficulté.
Mais c'est justement pour ça qu'on a besoin d'afficher une forme d'unité. Parce que sinon, on a le sentiment que nous, les écologistes, on ne se rend pas compte de ça. Mais on se rend très bien compte de ça. Simplement, on dit que c'est un problème structurel. Aujourd'hui, il y a à peu près 100 entreprises qui sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Total, les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise Total, ça représente les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc ce qu'on dit, c'est que c'est injuste de faire peser sur des ménages qui sont déjà dans la précarité énergétique, parce qu'ils peuvent pas faire leur plein d'essence pour aller à leur travail, parce que leur facture d'énergie est parfois plus importante que leur loyer, parce qu'ils vivent dans des passoires thermiques. C'est injuste de leur faire peser à eux la transition énergétique, alors que ces grandes entreprises-là sont aujourd'hui largement exonérés d'un certain nombre de taxes.
Certains parlent aussi de taxer le kérosène. Vous êtes d'accord avec cette
Évidemment,
idée ?
Évidemment, de taxer le kérosène et surtout d'organiser la société pour qu'on puisse faire autrement. D'organiser des transports en commun qui puissent prendre le relais, y compris dans des zones rurales ou périurbaines, comme ça existe en Autriche ou en Suisse. D'organiser une transition pour que notre urbanisme se transforme. Aujourd'hui, on a des centres commerciaux qui sont à l'extérieur des villes dans lesquels on est obligé d'aller en voiture pour faire ses courses. La distance entre l'endroit où les gens habitent et l'endroit où les gens travaillent, c'est considérablement augmenté, notamment parce que les prix augmentent dans les grandes villes et que ça devient de plus en plus difficile de se loger dans le centre de Paris, dans le centre de Bordeaux, dans le centre de Nantes, parce que les prix augmentent. Tout ça, ce sont des inégalités qui ont besoin d'être résolues de façon structurelle. Donc on a besoin de dire aujourd'hui au gouvernement, aux grandes entreprises, prenez la mesure de ça, organisez cette transition et ne commencez pas par augmenter des taxes sur des personnes qui sont déjà trop fragiles.
Le fait que Emmanuel Macron ait annulé la hausse de la taxe carbone prévue pour 2019, alors même qu'on a appris que les émissions de CO2, vous le rappeliez Cyril Dion, sont quand même la cause du réchauffement climatique, l'une des causes principales du réchauffement climatique, était repartie à la hausse. Est-ce que c'est un échec là aussi de l'écologie ?
Pour moi, c'est un échec de la démocratie, à vrai dire. C'est-à-dire que c'est un échec pour nous, parce qu'on ne trouve pas d'espace dans lequel on peut avoir des conversations constructives et qui permettent d'aller au bout d'un certain nombre de sujets. Comment ça se fait que dans cette société, on est obligé d'être dans une situation comme ce matin? Je suis passé par les Champs-Élysées, j'ai vu les cars de CRS, la police, on avait l'impression d'être dans un pays en guerre, pour pouvoir se parler. C'est quand même fou. Aujourd'hui, on est face à une situation où il y a à la fois des gens qui sont dans la précarité, qui disent on peut pas continuer comme ça, et dans une situation où les espèces disparaissent à une vitesse considérable, où le climat se dérègle, où cette planète pourrait devenir inhabitable. Et au lieu de se mettre tous autour de la table et de trouver ensemble des solutions, mais des solutions drastiques, c'est-à-dire c'est pas des petits ajustements, je veux dire la taxe sur le diesel, c'est quand même une plaisanterie. Le secrétaire de général...
Ça n'est pas pour tout le monde, hein.
Non mais... Je veux dire, c'est une plaisanterie si on pense que c'est ça qui va nous permettre de résoudre la problématique climatique. Quand le secrétaire général de l'ONU nous dit « on a 2 ans pour radicalement changer de cap, sinon on va perdre le contrôle de la situation », comment est-ce qu'on peut se dire que rajouter quelques centimes simplement pour le diesel, ça va résoudre le problème ? Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est laisser dans le sol la quasi-totalité des ressources fossiles. La quasi-totalité du pétrole et du charbon. Ça demande une organisation collective qui est autrement plus complexe. Donc qui demande, encore une fois, de se mettre autour de la table, de discuter, et qui demande des mécanismes démocratiques qui aujourd'hui n'existent pas.
Est-ce que c'est audible ça, aujourd'hui, Cyril Dion ?
Mais est-ce que c'est audible ? En fait, est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on a le choix ? Donc on fait quoi, si c'est pas audible ? On continue comme ça ? On continue à avancer jusqu'à ce que la catastrophe arrive ? Moi, aujourd'hui, je plaide pour créer des mécanismes démocratiques qui permettent d'avoir ces conversations. J'en ai parlé dans la tribune de Libération, j'en ai parlé à ces politiques. On a des voisins...
Reparlez-en ici à France Culture pour ceux qui n'ont ni lu votre tribune, ni écouté ou regardé ces politiques.
On a des voisins qui ont fait des expériences qui sont quand même très intéressantes. Par exemple, l'Irlande. a créé un parlement de circonstances avec 100 personnes. Un président de séance, 66 personnes tirées au sort sur le modèle des jurés d'assises et 33 parlementaires élus. L'idée était de réviser 8 articles de la Constitution. C'est fort, quand même. Ils ont travaillé pendant 14 mois. Leur débat était retransmis en direct, sur YouTube, sur Internet, donnait lieu à des comptes rendus dans la presse. Du coup, tout le monde pouvait participer à ce débat. Ils ont reçu des contributions via les réseaux sociaux des citoyens. Ils ont reçu des contributions d'universitaires, de chercheurs, d'entreprises, de responsables politiques. Ils ont fini par rendre des conclusions. Et ces conclusions ont été reprises par le gouvernement et ont donné lieu à un référendum. Sauf que ce référendum est arrivé après 14 mois de débats dans la société, de vraies discussions démocratiques. Et en l'occurrence, ils sont parvenus à deux modifications assez majeures dans leur constitution, autoriser le droit à l'avortement et autoriser le mariage homosexuel, dans un pays très catholique où l'Église s'opposait de façon très virulente aux deux mesures, et s'opposait même au fait que des référendums soient tenus. Et ça s'est passé dans un climat social très apaisé. C'est quand même intéressant de se dire qu'on pourrait faire ça. Aujourd'hui, les Gilets jaunes demandent des assemblées citoyennes. On pourrait s'inspirer de ce type d'exemple. Autre exemple, la Suisse a aujourd'hui un mécanisme qui s'appelle les référendums d'initiative citoyenne, avec les votations. Quand 100 000 personnes se mettent ensemble, elles peuvent proposer une loi qui ensuite est reprise par le Parlement et le gouvernement et qui donne lieu à un référendum. Et ça, il y en a en général 3 ou 4 par an. Ce qui veut dire qu'on rentre dans une respiration démocratique où on peut discuter de ces enjeux-là tout au long de l'année et on peut ensemble essayer de trouver des solutions au lieu d'attendre que ça soit les élus qui le fassent tout seuls ou d'être obligés, comme c'est le cas aujourd'hui, d'être dans des situations d'affrontement qui peuvent tourner à la violence. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à se parler.
Et parce qu'on n'a pas le choix aussi, Cyril Dion. C'est pas seulement une question qu'on n'arrive pas à se parler, c'est qu'effectivement, les priorités ne sont pas celles que vous donnez. Comment expliquer qu'en France, on n'en soit pas encore à mettre ces priorités qui sont les vôtres, hein, aujourd'hui, au premier ordre du jour d'un conseil des ministres ou d'un débat à l'Assemblée nationale? Pourquoi la France reste-t-elle encore à ce point aussi en retard par rapport à ses voisins?
Mais parce que pour l'instant, il y a des intérêts économiques et qui sont extrêmement forts et qui continuent à orienter les politiques. J'étais sur France Inter un peu plus tôt où on m'interrogeait sur la déclaration de Christiane Lambert qui disait on peut très bien faire la transition de notre agriculture sans passer par toutes ces mesures écologiques et on va mettre les...
Christiane Lambert de la FNSEA.
La présidente de la FNSEA. C'est quand même ahurissant d'entendre ça, alors qu'on sait aujourd'hui que un très grand nombre de scientifiques, y compris le rapporteur, l'ancien rapporteur de l'ONU pour le droit à l'alimentation, nous disent l'agriculture conventionnelle, industrielle avec les pesticides, on peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à avoir les populations d'insectes qui s'effondrent, à raser les forêts, à avoir nos sols qui s'appauvrissent parce qu'on fait de la monoculture. On ne peut plus.
Restez avec nous. Il est 8h30 sur France Culture. On vous retrouve dans quelques minutes, juste après la revue de presse de Natacha Triou, Cyril Dion.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Bourret.
Une revue de presse du samedi, Natacha Triou, bonjour.
Bonjour Caroline.
C'est-à-dire avec des articles à lire dans la presse ce matin et d'autres un peu plus fouillés que l'on pourra lire avec intérêt ce week-end. Alors aujourd'hui, il y a une des journaux, bien on le disait tout à l'heure, les Gilets jaunes, et les Gilets jaunes sous toutes les coutures.
Sous toutes les coutures ou presque, hein, puisque c'est surtout sous le prisme sécuritaire que la presse regarde cet acte 4. Partout, on trouve le champ lexical de la bataille et de la guerre. Alerte jaune, titre Libé, samedi noir, titre Le Figaro. Le journal n'hésite pas à écrire que Paris est en état de siège. 89 000 policiers sur l'ensemble du territoire, certes, c'est du jamais vu. Ce week-end se prépare également un autre événement, le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, qui aura lieu lundi. Cela n'a pas échappé au journal Le Monde, qui en page 2 titre « Triste anniversaire pour les droits humains » ou encore dans son supplément idée « La fin d'une utopie ?» point d'interrogation. S'il s'agit du document le plus traduit, aucun des 193 États de l'ONU ne l'applique totalement. Mais ce n'est pas une raison pour parler d'échec, nous dit la grande juriste Mireille Delmas-Marty dans AOC ce matin. La revue en ligne lui consacre un entretien et revient sur ce texte fondateur, sur son chemin parcouru. Ou comment, à échelle mondiale, articuler l'universel et le pluriel, le commun et le particulier.
Les droits de l'homme, il en sera également question sur l'antenne ce week-end et lundi avec une journée spéciale au cours de laquelle on retrouvera Marcel Gaucher à la grande table lundi. Marcel Gaucher qui parlait également de la démocratie dans la revue Papier.
La revue Papier, la revue de France Culture, vient de sortir avec un dossier intitulé « Sommes-nous encore démocrates ?». C'est un dossier foisonnant où l'on y trouve une grande variété de réflexions sur le concept même de démocratie. Marcel Gauchet donc revient sur l'avènement de la République, sur fond de terreur. Par ailleurs, dans la table ronde sur la montée de l'illibéralisme, les ambiguïtés de la démocratie moderne sont auscultées. Ou quand la légitimation par les urnes prend le dessus et que les principes de liberté n'en sont et sont malgré tout bafoués. Autre texte passionnant, celui du politologue James Miller et sa question qui détonne, et si le populisme était bon pour la démocratie ? L'histoire de la démocratie est passée au crible à travers les siècles et ses penseurs, de Platon à Montesquieu, et un constat. Le projet démocratique est intrinsèquement instable, écrit-il. Selon lui, les mouvements de révolte ne sont pas nécessairement populistes, dans le mauvais sens du terme, et en dépit des risques qu'elles encourent, les révoltes populistes sont indissociables à la vitalité de la démocratie. Elles remettent en question le statu quo.
Et puisque Natacha, la COP24 se poursuit en Pologne, vous nous invitez à lire le dernier numéro de la revue Ouzbek et Rika avec une enquête sur la collapsologie.
La collapsologie, une science pour les uns, une idéologie pour les autres. Les collapsologues pensent que l'effondrement de la civilisation est déjà en route. En 72, la publication d'une bible, le rapport Meadows intitulé « Les limites à la croissance ». Selon lui, l'effondrement aura lieu à l'interconnexion de toutes les crises, à savoir croissance industrielle, production alimentaire, population et écosystème terrestre. Ce serait pour bientôt, entre 2030 et 2060. Il est vrai que le GIEC déclare depuis les années 80 disent que pour l'espèce humaine, le réchauffement climatique est une menace existentielle, je cite. Contre l'idée d'une politique des petits pas, les collapsologues remettent en question notre modèle économique. Dans les universités émergent de nouvelles pistes théoriques, celles de capitalocène ou l'impact du capitalisme sur la planète. Pour beaucoup d'écologistes, l'effondrement est tabou parce qu'il ne faut pas tuer l'espoir, dit l'une d'entre elles. Pessimisme, absence de solutions concrètes, naïveté, il en ressort que la collapsologie est un sentiment, un signe des temps, qu'après le mythe du progrès, le grand récit du XXIe siècle serait peut-être celui de l'effondrement. Et la revue de presse dresse aussi le palmarès des personnalités préférées des collapsologues, et Cyril Dion, vous en faites partie.
Ah ben voilà. Cyril Dion, vous êtes collapsologue ? Dans le sens que c'est défini ce dossier.
J'ai plusieurs amis collapsologues, en tout cas. Et en tout cas, la perspective d'un effondrement est absolument pas à écarter, c'est sûr. Cet effondrement peut à la fois venir par la conjonction des crises écologiques. C'est d'ailleurs ce qu'on racontait au début de Demain. On s'était appuyé sur une étude qui avait été menée par deux scientifiques à Stanford et Berkeley qui disaient ça. Qui disaient si on met bout à bout la pénurie d'eau, la déforestation, le changement climatique, la disparition des espèces, la pollution, les migrations, ça peut conduire à ce qu'ils appelaient un tipping point, c'est-à-dire un point de bascule qui pourrait faire s'effondrer un certain nombre de nos systèmes économiques, sociaux et écosystémiques. Mais ça peut aussi venir de mouvements sociaux, de conflits et de la démocratie qui se délite à cause justement de situations qui deviennent de plus en plus tendues.
Vous savez, Cyril Dion, que c'est justement cette perspective d'un effondrement et la crainte que cet effondrement peut susciter qui a longtemps fait en sorte que les Français n'étaient pas très sensibles à l'écologie. Il y a deux conséquences de cette perspective de l'effondrement. Soit il nous met en mouvement en disant justement faisons en sorte que cet effondrement ne marche pas, soit il tétanise. Oui. Et on a l'impression en France en tout cas qu'il a longtemps tétanisé. Vous dites que c'est très important. Et c'est aussi l'une des grandes perspectives apportées par le dossier dont parlait Natacha sur la collapsologie, c'est-à-dire renverser la vapeur passe par le renversement d'un récit. Le grand récit du XXIe siècle sera peut-être celui de l'effondrement. Comment faire en sorte que ce grand récit nous mette en mouvement plutôt qu'il ne nous tétanise ?
Ben pour moi, on a besoin de marcher sur deux jambes. C'est pour ça que dans Demain, on a passé 5-6 minutes sur l'effondrement et qu'on a passé 1h50
sur les pistes d'action
à raconter une autre histoire. Pas seulement des pistes d'action, mais donner un autre sens à notre existence, donner une autre perspective de l'avenir, une autre vision, en montrant des personnes qui inventaient de nouvelles façons de faire de l'agriculture, de nouvelles façons de produire de l'énergie, de nouvelles façons de créer des monnaies, de nouvelles façons de faire fonctionner leurs entreprises, de nouveaux modèles démocratiques avec les Islandais, par exemple, qui ont participé à réécrire leur constitution aussi, après la révolution qu'ils ont menée suite à la crise économique de 2009, d'autres modèles éducatifs, parce que, pour moi, l'angoisse ne suffit pas. On a besoin de susciter de la créativité, de l'enthousiasme.
De l'espoir.
De l'espoir, mais pas de l'espoir naïf. C'est-à-dire pas se dire, c'est pas parce qu'on va faire ça que tout va se transformer. Mais simplement du sens, encore une fois. Et aujourd'hui, le récit capitaliste est en train de s'effriter parce que le sens de ce récit est en train de montrer ses limites. On voit bien que la promesse, qui est avoir plein de plus en plus de possessions matérielles, gagner de l'argent pour pouvoir faire partie de la société de consommation et donc être heureux, ben aujourd'hui ça marche pas pour un certain nombre de personnes. Avec 1200 euros par mois, ce qu'on nous promet dans la publicité, on peut pas l'avoir. Donc peut-être que c'est pas ça le sens de nos vies, d'être des producteurs-consommateurs, et que c'est autre chose.
Dans la première heure de ces matins du samedi, nous recevions l'écrivain américain Richard Powers.
J'ai adoré le livre.
L'Arbre Monde, et qui parlait de la puissance de la fiction, mais de la puissance du récit sur les individus, dans les têtes, de cette importance de la révolution qui passe d'abord par une révolution de l'esprit, une révolution culturelle. Je pense que vous n'allez pas contredire Richard Powers ce point, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, Cyril Dion, que nous sommes précisément à l'aube d'une nouvelle histoire, ou bien que la crise que nous traversons, qui est une crise profonde, cette crise des gilets jaunes, cette crise de la situation française, des fractures et des colères françaises, nous fait reculer un peu plus, c'est-à-dire à faire reculer un tout petit peu plus le consensus, le peu de consensus écologique sur lequel nous étions mis d'accord.
Je pense que c'est un risque énorme et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé à ce que Gilets jaunes et écologistes se rejoignent, même s'ils ne se rejoignent pas sur tout, au moins se rejoignent sur ce constat que c'est ce modèle économique, capitaliste, néolibéral qui crée tous ces désordres.
Oui, mais vous voyez bien qu'il devrait y avoir beaucoup plus de monde dans la rue pour réclamer de mieux respirer, de mieux manger et que ça ne fait pas descendre les gens dans la rue.
Mais c'est normal que les gens descendent dans la rue d'abord pour des questions de survie. C'est normal. Mais c'est important justement qu'on comprenne que ces questions de survie sont liées à des questions plus globales, qui sont notre modèle économique, qui sont notre écosystème. Clairement, quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas suffisamment d'argent pour mettre de l'essence dans sa voiture pour aller travailler, c'est de la précarité énergétique.
Et il descendra pas dans la rue pour mieux respirer.
Mais il descendra dans
avec
la
vous.
Il descendra dans la rue parce qu'aujourd'hui, il peut plus s'en sortir. Et demain, en fait, il descendra peut-être dans la rue parce que les conditions de vie dans lesquelles il est se sont dégradées aussi pour des questions écologiques. Ce qu'on essaye, et peut-être qu'on n'y arrive pas suffisamment, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner du sens à tout ça, de montrer que tout ça nous conduit au même endroit.
À quel moment, Cyril Dion, faites-vous intervenir le politique ?
Mais le politique a besoin d'intervenir à tous les étages. Aujourd'hui, si, encore une fois, le secrétaire de général de l'ONU nous dit « on a 2 ans », on n'a pas le temps d'attendre que tout le monde se dise, par exemple, « bon, j'arrête d'utiliser des gobelets en plastique ou des pailles, etc. » On a besoin de lois qui interdisent le plastique à usage unique. On a besoin de lois, aujourd'hui, qui réorientent la politique énergétique. Donc on va avoir besoin de taxer le carbone, on va avoir besoin de taxer le kérosène, on va avoir besoin de taxer les grandes entreprises pour les obliger à changer de modèle économique. On va avoir besoin de transformer notre modèle démocratique et nos institutions pour créer des espaces où on peut parler de ça tous ensemble et où on peut se mettre d'accord plutôt que d'essayer d'imposer des mesures qui vont mettre les gens dans la rue et qui vont opposer, encore une fois, des personnes qui s'en sortent pas et des personnes qui disent qu'on a besoin d'agir pour le climat. Donc, c'est pour ça que, non seulement on a besoin de se mobiliser pour faire pression sur les politiques, mais on a même besoin de voir émerger de nouveaux mouvements politiques qui puissent être capables de porter cette nouvelle vision du monde.
Est-ce que vous en voyez aujourd'hui ?
Il y en a, en tout cas, oui. Par exemple, Place Publique, aujourd'hui, porte un certain nombre de ces questions, c'est sûr.
Place Publique Mouvement, porté notamment par Raphaël Glucksmann,
Claire Nouvian.
Dans Demain, Cyril Dion, vous parliez de permaculture, d'agroforesterie, de fermes urbaines, de monnaie locale, de coopératives citoyennes, de production d'énergie solaire. 3 ans après, vous avez filmé avec la journaliste Laura Noala un film qui s'intitule Après-demain, qui porte notamment sur le bilan, ce qui a été fait en 3 ans, ce qui n'a pas été fait. Le bilan est plutôt positif ou plutôt négatif ? Est-ce que les choses ont changé pour vous ?
Il est très positif dans ce que ça a suscité chez des milliers et des milliers de personnes. C'est-à-dire que ça a déclenché plein d'initiatives. Donc ça, on a été en voir un certain nombre, dont ici à Paris, Anne Hidalgo, qui explique que Demain a été une source d'inspiration et que la force de l'exemple, justement, de villes comme San Francisco, comme Copenhague, comme Détroit, les a conduits au plan climat qui est aujourd'hui l'un des plus ambitieux d'une ville en France, avec 140 km de pistes cyclables, avec 100 hectares de végétalisation, avec l'objectif d'être neutre en émissions de CO2 en 2050. Donc ça, c'est formidable.
Une vision de long terme, là encore.
Mais, depuis 3 ans, on voit que à l'échelle de la planète et même à l'échelle de la France, la situation a continué à se dégrader. de façon très préoccupante. Donc c'est ça, moi, qui aujourd'hui me conduit à dire qu'il faut aller plus vite, qu'on a besoin de mobiliser de façon plus importante. Et donc à la fin du film, on s'interroge là-dessus, sur comment est-ce qu'on peut changer d'échelle. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on a été interviewé Nicolas Hulot, qui dit ça, qui dit ce que vous disiez là aussi à l'instant. Aujourd'hui, il n'y a pas 1 million de personnes qui descendent dans la rue pour demander de l'agriculture biologique, pour demander qu'on arrête avec les énergies fossiles, pour demander une taxe sur les transactions financières. Pourtant, il y a certainement bien plus qu'un million de personnes qui aspirent dans le fond à ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour que cette grande portion des Français qui, à mon avis, moi, représente au moins 30% des gens, puisse devenir une force qui influence la politique?
Je vous pose la question. Comment fait-on?
Pour moi, comme je viens de le dire, en construisant un récit différent de l'avenir. Et c'est ce qu'on développe dans le film. C'est Harari qui dit, donc l'auteur de Sapiens, d'Homo Deus, qui dit finalement, ce qui nous distingue des autres espèces, c'est que nous, on a la capacité d'embarquer des millions de personnes dans une coopération flexible. Et c'est ça qui, de tout temps, a permis aux sociétés de s'agréger autour de grands projets. Et lui, il dit que cette coopération, elle passe par, justement, de grands récits, de grandes histoires.
Et pour moi, plutôt que par des petites mesures en termes d'agriculture, en termes d'électricité ou d'énergie, en termes de démocratie, bah, qui peuvent être d'ailleurs des grandes mesures, hein, avec des grands effets. Mais
des petites mesures, on n'en est plus là. C'est-à-dire que on a besoin de montrer des exemples qui s'agrègent pour construire une autre histoire, un autre récit beaucoup plus vaste. Et aujourd'hui, pour moi, la politique manque cruellement de ce récit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui se désintéressent de la politique. Parce que nos responsables politiques ne nous proposent plus d'avenir, de sens, de projet qui soit vraiment enthousiasmant.
Cyril Dion, le philosophe Dominique Bourg était l'invité de nos confrères de France Inter il y a quelques jours. Et il a dit, une des raisons pour lesquelles ça ne marche jamais, ce combat pour l'écologie, c'est que ça passe toujours au second plan. Votre film, après-demain, sera diffusé mardi soir sur France 2 à 23h15. Mmh. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire sur le service public? Même France 2 considère donc que ce n'est pas très prioritaire?
Ben, je pourrais même vous dire quelque chose de pire, c'est que parce que demain va être diffusé aussi. Donc demain va être diffusé dimanche à 22h50 et après-demain va être diffusé mardi à 23h15. Donc j'ai eu une conversation avec Delphine Ernotte à ce propos.
Qui est présidente de France Télévisions.
Qui elle-même déplorait que cette programmation soit si tardive et qui me disait « Mais je pense qu'on a raté un rendez-vous et qu'il faut qu'on refasse quelque chose au printemps. » Mais je lui disais « Mais comment est-ce possible qu'en pleine COP24, qu'à un moment où sur toute la planète on nous dit que le changement climatique est aussi grave, qu'à un moment où la tension sociale est aussi importante, France Télévisions et France 2 fassent pas le choix de mettre en première partie de soirée quelque chose qui propose
réponse.
Des solutions, qui propose de l'espoir. Ben, elle sait pas. Hein. C'est ça, France Télévisions. C'est, ben, je sais pas, en fait, pourquoi ce choix a été fait. Je pense que c'est une erreur. Je peux pas vous dire autre chose.